France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Stanislas de Barbérac. Je suis né à Annecy, en Haute-Savoie, en 1984, le 27 avril. Donc c'est bientôt mes 40 ans. Et je suis ténor.
Bonjour Stanislas de Barbérac.
Bonjour.
Et merci beaucoup de nous accorder ce temps, l'occasion de mieux vous connaître. Vous, l'élégant ténor, au timbre d'or, qui avec les années joliment sombre, rayonnant tour à tour de candeur ou de douleur, héroïque et raffiné, sensible et vaillant. J'avais envie de dire peut-être un peu à l'image de votre nom, un nom à la fois doux et vigoureux qui fleure bon le cap et l'épée. Nous sommes chez vous, entre Garonne et Océan, aux portes de Bordeaux et de la forêt landaise. Ici, entre ces larges murs, vous avez construit votre nid. Alors malgré une carrière internationale sur les plus belles scènes du monde, du Met à la Scala, en passant par Berlin, Salzbourg, Londres, Madrid, Paris, j'en passe, vous n'avez jamais pensé à quitter cette matrice ?
Ça commence bien. J'ai besoin de ce socle, en tout cas. Ça, c'est une évidence et je le ressens de plus en plus parce que c'est un métier éblouissant, passionnant, mais qui peut aussi nous mener dans des moments de doute, évidemment, comme beaucoup de métiers artistiques ou plein d'autres métiers, d'ailleurs. Hein, on n'est pas. Mais c'est vrai que l'artistique touche l'émotionnel, forcément, et on est très solitaire, donc on est face à nous-mêmes, et donc on a le temps de réfléchir. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est sûr que ce socle, moi, j'en ai besoin, parce que dans les moments de doute, je sais où je peux puiser de l'aide, du réconfort ou des conseils, parce qu'on n'est pas forcément dans des moments de mood désespéré, mais aussi quand ça marche, quand on est bien, de le partager avec quelqu'un en qui on a confiance. Ou voilà, ce socle-là, je pense que je suis très chanceux de l'avoir et de savoir m'y rattacher quand j'en ai besoin. Ça, c'est une évidence.
Et quand vous dites « on est souvent seul », etc., vous aviez une prédisposition, vous diriez, dans votre caractère à assumer ces moments-là de solitude ou finalement c'est quelque chose de, que vous avez appris un peu à vos dépens dans la carrière et donc ce socle est encore plus important ?
Alors il y a deux choses. Je pense que ça fait partie de ma personnalité. J'étais préparé à ça parce que j'ai été élevé comme ça. Je pense que c'est toujours un rapport aussi à notre enfance, à la façon dont on est éduqué. Moi, je suis papa maintenant de 3 enfants. Moi, on était 4 dans ma famille et mon père voyageait énormément. On le voyait très, très peu. J'étais le petit dernier, donc j'ai vu mes grands frères et sœurs s'envoler assez tôt. Donc, j'étais seul à la maison. Donc, j'étais très indépendant. J'ai très tôt, dans mon adolescence, voyagé seul avec des copains, enfin, quand j'étais au lycée, etc. Donc, j'aimais ça. J'aimais le goût du voyage et j'étais prêt à ça. En revanche, c'est vrai que quand on étudie le chant, l'art lyrique et quand on se prépare à une carrière, c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout aux chanteurs. Je pense que ça revient souvent, moi, quand on en parle entre chanteurs de ma génération, des copains de chanteurs français, etc. C'est sûr que, quel que soit notre parcours au conservatoire, au CNSM, dans les ateliers lyriques, etc., on nous apprend à chanter, on nous apprend à aller sur scène, et encore. Mais on nous apprend pas cette solitude, on nous apprend pas ce baisser de rideau, on ne parle pas du côté émotionnel du métier, de la charge psychique et psychologique, qui affecte d'ailleurs la physiologie du chanteur après, hein. Donc ça, on ne l'apprend pas. Je ne suis pas sûr que ça s'apprenne. C'est très lié à ce que l'on est, à notre structure aussi, psychique. Et on apprend sur le tas, donc ça peut être plus ou moins heureux ou douloureux, ça c'est sûr. Donc avec le temps, on acquiert de l'expérience, de la confiance en soi, etc. Mais quand on a une mauvaise critique, quand on sent que la claque est moyenne parce qu'on se dit « bah c'est vrai, j'étais pas bien ce soir, j'étais pas à 100%, j'ai pas pu tout donner parce que je pensais à autre chose ou parce que j'étais malade ou parce que... » Bah ça nous affecte parce que malgré tout, malgré une maladie, une trachéite, un truc, on va sur scène et on se dit je me donne à 100% mais je peux donner qu'en fait 60, donc les gens le perçoivent, eux ils s'assoient, ils paient leurs billets, ils y peuvent rien, donc c'est toujours un peu contraignant comme rapport émotionnel, mais voilà, ça fait partie du jeu aussi.
Le feu sacré, on l'entretient grâce justement à la matrice.
Tout à fait. Alors il y a la matrice aussi purement familiale, ça c'est le socle privé je dirais, qui est plus ou moins impliqué dans notre métier d'ailleurs, hein, parce que y a des gens qui ont besoin de leur famille autour d'eux quand ils sont en prod, etc. Ou moi, c'est pas forcément mon truc. Moi, ce qui me conforte et qui me rassure, c'est que aussi ma famille et leur propre vie ne soient pas forcément rattachées à la carrière de papa, ou parce que ça, je le supporterais mal. Mais en tout cas, il y a aussi la matrice professionnelle, c'est-à-dire mon prof de chant, mon agent. Et éventuellement, certains chanteurs ont une ou deux personnes de confiance à qui ils confient tout sur leur prise de rôle, sur leur technique. Sur ça, c'est extrêmement important pour la partie business. Ça, c'est sûr. Moi, je m'en réfère beaucoup. Parfois, on fait des erreurs. On fait des erreurs de répertoire. On se dit, bah tiens, on nous propose ça à tel endroit, c'est merveilleux. Bah, quel que soit le rôle, j'y vais parce qu'il faut que je fasse mes premiers pas là-bas. Et puis, en fait, on se trompe. Ou inversement, on fait pas le bon rôle dans une grande maison, on se dit « si j'avais eu un truc un peu plus intéressant, ça m'aurait rapporté plus de choses ». Donc tout est une question aussi de feeling, mais moi je peux pas le porter tout seul en tout cas. En ce qui me concerne, moi je sais que j'ai toujours eu besoin de partager ça avec soit ma famille, soit mon coach ou un pianiste répétiteur avec qui connaît ma voix depuis le début par cœur. Voilà, on en a besoin.
Quand on fait les grands entretiens, c'est vrai qu'on replonge aussi un peu, évidemment, dans les racines de l'invité. Vos racines à vous, j'évoquais ce nom qui fleure bon le cap et l'épée, c'est vrai qu'on se dit que ça pourrait être un personnage chez Dumas. D'où viennent vos familles, côté paternel, maternel ?
Alors, moi j'ai une maman polonaise. Ses parents sont arrivés après la Deuxième Guerre. Mon grand-père a débarqué en Normandie avec l'armée polonaise. Ils se sont installés donc dans la région d'Annecy après la guerre. Donc ma maman est née à Paris, mais ils ont vécu toute leur enfance avec frères et sœurs autour d'Annecy. Et mon père était de Montpellier. Voilà, donc il y a une branche de la famille Barbérac qui est plutôt de ce coin-là, du sud de la France. Et voilà, donc j'ai ce mélange en moi. Donc je suis quand même à moitié polonais, hein, puisque ma mère est vraiment 100% polonaise. Donc j'ai été éduqué dans cet esprit-là, entre un milieu aristo, catho, français, et puis un milieu aussi d'ouvriers immigrés. Donc c'était bien pour mon équilibre et aussi pour ma construction. Avec le recul, ça c'est une grande richesse. J'étais souvent avec mes grands-parents polonais quand on était petit, quand on habitait à Annecy. Donc il y avait aussi ce côté du changement de langue. Moi je parle très peu ou presque plus du tout polonais, mais quand on est jusqu'à l'âge de mes 7-8 ans, on parlait quand même beaucoup polonais à la maison, même si ma mère nous parlait français parce qu'elle ne le sentait pas, elle a dû apprendre le français toute seule à l'école, etc. Mais on avait ce côté, après le goûter, après l'école, on allait chez nos grands-parents, il y avait des gens qui parlaient polonais à table. Quand j'étais en vacances avec mes grands-parents, très souvent, ça ne parlait que polonais, donc... Voilà, j'avais cette couleur et cette culture partagée en famille. Et voilà, après, on est arrivé dans la région bordelaise pour des raisons professionnelles du côté de mon père. Je devais avoir 8 ou 9 ans et depuis, je suis bordelais d'adoption. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup navigué entre Annecy et Paris toute ma petite enfance.
Et Annecy, c'est la montagne, etc. Il y a une sensibilité à la nature, c'est quelque chose d'important ?
Bien sûr, bien sûr. Parce que on était beaucoup à l'extérieur. J'ai des souvenirs d'enfance où on était beaucoup à la montagne, on allait souvent en station. On faisait beaucoup de sports de montagne, etc. Et puis Annecy, c'est quand même une ville magique. Hein. On a beaucoup, beaucoup de souvenirs en famille là-bas. tous les frères et sœurs de maman étaient d'une famille nombreuse, donc tous mes cousins, on passait notre temps ensemble, on allait au ski ensemble, on allait faire du vélo ensemble, du VTT en montagne, etc. Donc c'est énormément de souvenirs d'enfance qui se sont à peu édulcorés parce que nous, on a bougé, on s'est carrément mis de l'autre côté de la France, et puis c'est même aujourd'hui, hein, c'est très difficile de traverser la France dans ce sens-là, donc on est un peu perdu tous ces gens de vue. Mais bon, on a aussi cette nature dans le sud-ouest, parce que finalement, avec les Pyrénées, la côte atlantique, etc., on retrouve quand même tout ça. Surtout que ma femme a beaucoup de famille du côté des Hautes-Pyrénées et des Landes, donc ouais, très attaché à ce côté nature, c'est vrai.
Et quand vous dites que vous avez donc des frères et sœurs, vous êtes le petit dernier, c'est quoi la fratrie alors? Des garçons, des filles?
Alors,
il y a combien d'écart entre le premier et le dernier?
Ça a été pas mal fait parce que c'est fille, garçon, fille, garçon. Donc j'ai une grande sœur qui habite Nice, ensuite j'ai mon frère qui habite Bordeaux, j'ai une autre sœur qui est près d'Annecy, entre Annemasse et Genève, voilà.
Et vous êtes le seul musicien des quatre?
Ouais, je suis vilain petit canard, ouais. Alors oui, il y a eu des leçons de piano, les uns et les autres ont tous essayé de pianoter, etc. Mon frère avait un petit niveau aussi quand même. Et donc j'ai un peu étonné tout le monde quand j'ai décidé de chanter. Ils m'ont toujours vu chanter, hein. Quand j'étais petit, quand on est arrivé à Bordeaux, on s'est installé à Bordeaux et nous on a été scolarisés à Grand-Lebrun, qui est un gros bahut à Bordeaux, où il y avait une maîtrise de garçons. Et donc un copain de classe, quand je suis arrivé, m'a dit « Tiens, mais moi je suis à la maîtrise, il y a 2-3 répétitions par semaine, on fait des tournées l'été, c'est sympa, bah viens ». Moi j'avais aucune idée de ce que c'était, j'avais jamais chanté de ma vie, j'avais 8 ans. Et j'ai essayé, ça m'a plu, il y avait une bonne ambiance, et effectivement, et j'ai fait ça pendant 12 ans quoi.
Ah oui.
Donc j'ai connu le chant comme ça, sans jamais me dire que ça serait mon métier un jour, hein. Pas du tout. C'était vraiment un passe-temps, comme j'allais au rugby, ça faisait partie de mon planning de la semaine quoi. J'aimais ça, j'aimais chanter en chœur. Et puis finalement, je pense que c'est de là que tout est venu.
Et d'ailleurs, la musique, vous nous avez dit qu'il y avait eu un peu de cours de piano. Il y a une culture musicale. Qu'est-ce qu'on écoutait comme musique chez vous? Est-ce qu'on en écoutait? Est-ce
qu'il y avait aussi de la musique? Ouais. On écoutait de la musique classique surtout, évidemment. Enfin, évidemment, non. On écoutait de la musique classique parce que mes parents étaient mélomanes, mais sans plus. Hein, ils allaient au concert de temps en temps, mais... Voilà, et c'est vrai que quand moi, à l'âge de 8 ans, je me suis mis à chanter dans une chorale, etc., je leur demandais de passer des trucs pour que je les apprenne et tout. Donc on s'est mis à écouter beaucoup de musique et ça les a intéressés aussi. Voilà, c'était une émulation aussi collective dans la famille. Mais mon grand-père maternel était quand même organiste, pianiste professionnel, donc il jouait beaucoup de musique quand on était à la maison, ça c'est sûr.
Ouais, donc il y a quand même
ouais, il jouait beaucoup piano, mon grand-père,
ouais,
c'est vrai.
Ouais. Et comme vous avez passé beaucoup de temps avec lui, c'est quelque chose qui vous a bercé.
Ouais, il était tout le temps en train de, il descendait, prenait son café, il pianotait, il remontait, puis il redescendait, il pianotait. Donc voilà, il y avait cette ambiance aussi quand même de musique à la maison.
Musique, les grands entretiens de Stanislas de Barbeyrac.
Quand vous dites que vous étiez dans cet établissement, cette grosse gros ensemble scolaire Grand-Lebrun, ce sont, je crois, des marianistes, une certaine congrégation religieuse. Est-ce que la religion avait une place aussi dans votre éducation? Vous avez parlé d'un côté, d'une famille de votre père, aristocrate, catholique, etc. Et du côté de votre mère, est-ce qu'il y avait une religion?
Bien sûr, très. Bah, les Polonais, en général, sont très, très catholiques, très pratiquants. Donc oui, j'ai été élevé dans cet esprit-là, dans la foi, dans l'éducation religieuse, etc. Donc ça m'a poursuivi toute mon enfance, hein, le catéchisme, les sacrements, etc. Donc oui, ça c'est en moi, c'est aussi un refuge de temps en temps, c'est aussi une façon de s'exprimer, c'est une façon aussi de... Mes enfants sont baptisés, donc je trouve que c'est intéressant aussi de suivre ça dans l'éducation de mes enfants sans les forcer de quoi que ce soit, mais on va de temps en temps à la messe. Pas parce qu'on en a besoin, mais parce que je trouve que c'est aussi une façon de se cultiver, une ouverture d'esprit, d'écouter, de se poser pendant une heure, d'en parler, d'un texte qu'on a écouté, d'un rapport avec la vie que l'on a au quotidien. Voilà, je trouve que c'est un enrichissement. intellectuelle, en tout cas. Après, mes enfants en France, qu'ils en voudront. Comme moi, j'en ai fait ce que j'en voulais, hein, effectivement. Mais c'est vrai que je me surprenais parfois, étudiant à Bordeaux, au conservatoire, à aller à Saint-Paul-les-Dominicains, à Bordeaux. Ce sont des frères prêcheurs, les Dominicains. Et c'était toujours passionnant, en fait, intellectuellement. Les sermons des Dominicains, j'y allais pour ça. Parce qu'à l'époque, je voulais devenir journaliste et pas du tout chanteur. Et quand je préparais mes concours, j'y puisais un enseignement, en fait, dans ces prêches. Presque. Je trouvais ça vraiment, vraiment passionnant. Donc la religion, oui, a forcément un impact dans ma vie, parce que c'est aussi des moments de réflexion quand il nous arrive des trucs pas faciles. Moi, j'ai perdu mon père assez tôt, j'avais 20 ans. C'est pas un refuge, hein, c'est pas. J'ai jamais interprété la religion comme un truc dont j'ai besoin quand ça va pas. Pas du tout. Mais en tout cas, je trouve que c'est un cheminement philosophique et intellectuel pour moi.
Oui, c'est une manière de penser aussi.
Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est intéressant aussi une façon de regarder ce qui se passe aussi chez les autres, dans les autres religions, comparer les textes et analyser. Je trouve que c'est ça qui est intéressant.
Faire jouer comme ça l'intertextualité, en effet, entre les différentes religions. Vous avez donc évoqué ses frères et sœurs. Vous nous avez dit que finalement, vous étiez le petit dernier, assez vite, un peu seul, parce qu'il y a beaucoup d'écarts.
Ouais, pas mal, effectivement. Donc ma première sœur, on a 5 ans d'écart. Mon frère, on a 7 ans d'écart. Et Vanessa, on a 12 ans d'écart.
Ah oui.
Ouais. Non, j'étais pas prévu, moi, apparemment.
Mais après, vous êtes devenue la mascotte, peut-être.
Ouais, j'étais la mascotte. Et je vois que ma petite dernière, elle a pas mal d'écart avec Ismé, ma deuxième. Lison, elle a 6 ans et demi d'écart. Et c'est effectivement la mascotte.
Vous avez évoqué votre père et vous aviez dit qu'il était beaucoup absent quand vous étiez enfant pour des raisons de travail. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait, votre père?
Alors, au tout début, jusqu'à mes 6-7 ans, mon père, il avait une grosse boîte à Paris d'événementiel, de son et lumière, pyrotechnie, etc. Donc, il était souvent absent parce qu'il avait des gros congrès à l'étranger. Il faisait des séminaires, des trucs politiques, des défilés de mode. Enfin, voilà, il avait une boîte qui l'amenait un peu partout. Ensuite, il a travaillé en Afrique. Il faisait de l'import-export. Donc, voilà, il était souvent en déplacement. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas vu beaucoup. Et au moment où on s'est posé à Bordeaux, il a complètement changé de voie parce qu'il était d'abord, je pense, un peu fatigué aussi de cette vie. Et donc, c'était aussi un chamboulement pour nous d'avoir papa au quotidien. C'est quand on n'est pas habitué, on s'habitue à tout, finalement. C'est pour ça aussi que je dis que j'étais habitué à cette vie.
À s'adapter.
Ouais, à s'adapter. Et donc, forcément, je fais un transfert maintenant avec ce que peuvent vivre mes enfants et que je comprends quand ça manque, ou quand on est là trop longtemps, ils se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc oui, je connais, ouais.
Et votre mère travaillait ?
Ma mère ne travaillait pas à l'époque. Elle a travaillé ensuite, quand on s'est installé à Bordeaux, elle travaillait en tant que catéchiste à Grand-Lebrun. Voilà, parce que le catéchisme était obligatoire à Grand-Lebrun, donc il y avait des profs de caté, et voilà.
Et alors, quand vous allez intégrer cette maîtrise au début, on l'entend vraiment pour faire comme les copains. Vous avez dit d'ailleurs, je faisais ça comme du rugby. Vous avez fait beaucoup de rugby parce qu'on est en terre quand même.
Ouais, j'en ai fait pas mal. Un peu plus tard, mais à peu près cinquième jusqu'à la première année de fac, ouais, je faisais du rugby. Ouais.
Vous aimiez ça?
Ah ouais, ça me manque beaucoup ça. Mais c'est vraiment pas compatible avec le chant. C'est vraiment dangereux.
Quand vous intégrez donc ce chœur, est-ce que vous vous souvenez des premières sensations? Parce que c'est quand on n'a jamais fait ça, c'est quelque chose que de retrouver toutes ces voix autour de soi, la sienne au milieu, la puissance.
C'est ça, et c'est surtout découvert la mienne. J'avais aucune idée que j'avais une voix de soprane, un truc un peu angélique, voilà. Donc j'ai travaillé ma voix parce que cette maîtrise c'était un truc sérieux. Hein. On faisait quand même pas mal de concerts, on jouait avec orchestre, on partait en tournée à l'étranger. Donc il y avait un sacré bon niveau, quoi. Je n'avais aucune idée du solfège, d'une partition. Donc on apprend tout d'oreille et puis après on nous met des partitions dans les mains. Puis on a quand même un coach, un prof qui vient nous dit tiens, ça c'est tel intervalle. Et puis on commence à photographier. Et puis le cerveau travaille très vite à cet âge-là. Et puis on commence à être musicien. Bah, c'est des super souvenirs. C'était vraiment incroyable. Et effectivement, c'est ces émotions de se dire, tiens, je chante au milieu de gens, l'harmonie, la polyphonie. On apprend une ligne tout seul parce qu'on avait des studios par pupitre. Puis après, on se met avec les altos. Puis après, il y a les voix d'hommes qui arrivent et on se dit, mais oula, qu'est-ce qui se passe? Et après, il y a l'orchestre. Donc, quand on découvre tout ça avec ses yeux d'enfant de 8, 9 ans, c'est vrai que c'était des émotions particulières. Et puis après, l'adrénaline du concert, des gens qui se lèvent parce qu'ils sont tellement mignons avec leurs chaussettes hautes et leur petit col en V. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est des souvenirs de dingue. Je me souviens de ma première tournée était en Pologne. Donc, pour moi, c'était assez symbolique. On était partis 3 semaines en Pologne, en bus, à double étage. Non, c'est des souvenirs. Et puis en Pologne, il y a une vraie ferveur, comme l'Allemagne, autour des chœurs d'enfants. On avait un peu de répertoire polonais, donc les gens étaient en larmes, se levaient. Enfin, voilà, c'est des trucs quand même qu'on vit une seule fois. C'est des souvenirs assez forts. Non, c'était des superbes années.
Que des garçons ?
Il n'y avait que des garçons, ouais. Que des garçons. Maintenant, moi, je suis parrain des petits chanteurs de Bordeaux. Il y a un chœur de filles, et parfois, ils font des choses ensemble. Et ils sont très nombreux, c'est Alexis Dufort qui s'occupe de ça. Ça marche très fort, il y a une centaine de gamins, je crois. Enfin, c'est vraiment, il fait un beau travail, Alexis.
Et vous, justement, le chef de chœur, c'était qui ? Est-ce que ça a été une personnalité, je veux dire, importante dans la construction ?
Ouais, bien sûr. Alors, j'ai eu 2 chefs de chœur, moi, pendant les petits chanteurs. Au tout départ, j'ai eu Patrick Gély, qui était professeur de musique et de mathématiques à Grand-Lebrun et qui s'occupait des petits chanteurs, qui c'est un personnage marquant de ma vie d'enfant, d'adolescent et puis de musique aussi. Et ensuite, Philippe Martin, qui avait pris la suite de Patrick Gély et qui m'a accompagné aussi, qui est un ami. Ils sont des personnes avec qui j'ai toujours des relations, qui ont compté, ça c'est sûr.
Et vous avez toujours cultivé ce jardin, vous êtes resté dans la région.
Ouais,
on sent qu'il y a quelque chose de très fidèle.
Ouais, bien sûr, et puis je suis content de les retrouver maintenant, les petits chanteurs. On a fait des concerts, ils sont venus m'aider pour des concerts caritatifs que j'ai fait ici. Il y avait besoin de trouver des fonds pour la rénovation de l'orgue de l'église de Barsac, ils ont toujours dit oui. Oui, donc je garde ces liens avec eux, ouais. Puis c'est beau de voir ces gamins, je me dis, il y en a peut-être un jour qui sera chanteur d'opéra là-dedans, ou 2 ou 3, et voilà, c'est ça qui est chouette.
Et le répertoire que vous chantiez, c'était un répertoire sacré ou...
Ouais, la plupart du temps sacré. On avait toujours lors des concerts une grosse partie répertoire sacré, motet, où on faisait des messes de Charpentier, des messes des cantates de Bach, des messes de Mozart, etc., avec orchestre. Et après, on avait toujours un programme de musique profane a cappella.
Et qu'est-ce que vous aimiez, vous ? C'est-à-dire, dans ce répertoire, est-ce qu'il y a des œuvres que vous avez chantées, rechantées, ou dites, ah, ça, voilà, des œuvres qu'on est
bien
en train de, ou des épiphanies, quoi, des moments de découverte musicale ?
Ouais, bien sûr. Il y a des œuvres qui m'ont marqué. Moi, j'étais devenu assez vite soliste. Donc, on avait des duos et des solistes d'enfants dans des cantates de Bach, etc. Donc, il y a des choses qui m'ont marqué en tant que soliste, d'avancer du rang et de se mettre devant des églises de 400, 500 personnes. C'était tout le temps plein, les concerts des petits chanteurs, quand on faisait des trucs à Bordeaux. C'était tout le temps plein, quoi. Donc, c'était un truc... je pense que ça m'a forgé aussi le caractère, hein. Parce qu'on a cette insouciance quand on est enfant. On y va, on chante notre truc, on l'a appris par cœur.
Pas de trac ?
Si, mais c'est pas pareil quand on est gamin, je crois. On y va, quoi. C'est pas le même trac que maintenant. Maintenant... C'est cette expérience-là de l'enfance qui me permet aussi d'appréhender la scène autrement. Ça, c'est sûr. Mais non, je dirais pas. J'avais envie, quoi. Je me souviens que j'avais envie d'être devant.
Le Le pillet Jésus du Requiem de Forêt par le jeune soprano Richard Pitzinger et l'orchestre de Saint-Luc de New York dirigé par John Scott. Ainsi se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Stanislas de Barbeyrac, une série proposée par Judith Chen, réalisée par Adrien Roch et d'ores et déjà disponible en podcast dans son intégralité sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.